autre.
Voilà, dans 10 ans,
et il y aura, il y aura d'autres expositions.
Espérons.
Philippe Pascal, merci d'être avec nous. Vous êtes également architecte et votre agence s'appelle Arthur. Et vous réfléchissez depuis les années 90, vous réfléchissez et vous construisez durable.
J'aimerais plutôt rebondir ce que vous avez dit à un certain moment. Vous parlez d'architecture comestible. Mais je pense qu'effectivement, c'est la bonne définition du durable, parce que par définition, ça se digère. Et que le durable, c'est la terre qui doit être durable, avant que ce soit l'architecture. Donc toute intervention des humains doit prendre en compte la vie de la terre, tout simplement. Et durable, pour moi, c'est laisser à mes enfants, à mes petits-enfants, une terre et une planète propre. Je crois que c'est dans ce contexte-là. Mmh. Voilà.
Et dès 1990, c'est ça ?
Alors, effectivement...
Vous étiez peu nombreux à l'époque ?
Oui, même depuis mon diplôme. C'était les années, j'allais dire, les années de plomb de l'architecture durable. C'est-à-dire tout ce qui était matériaux vivants. Hein. Je parle de matériaux vivants, pas de matériaux naturels, parce que ça ne veut pas dire grand-chose. Effectivement, j'ai beaucoup travaillé sur la terre, sur le bois, sur la pierre. Non pas que les autres matériaux soient pas intéressants, mais c'était des matériaux qui m'intéressaient pour des raisons d'origine, puisque je viens de Madagascar. Et où là-bas, le durable, c'est quand même quelque part rester en vie, hein, savoir s'adapter à des conditions de vie difficiles. Donc en 90, effectivement, on a fait le Centre technique du bois de Bordeaux avec Alain Loisier, qui est un des premiers bâtiments qui a représenté la France à Maastricht à l'époque, hein, dans le cadre des conférences sur le durable. Puis par la suite, bah, effectivement, on fait plusieurs autres bâtiments, que ce soit le Conseil général de Gironde ou autre. On a effectivement travaillé sur pas mal de bâtiments qui sont considérés comme des bâtiments intéressants dans le cadre de la HQE, parce qu'on n'en a pas parlé, c'est marrant. Maintenant, on a oublié HQE.
C'est difficile à dire.
On ne parle plus HQE, on parle de durable.
Il faut expliquer à chaque fois ce que c'est. Enfin, on commence à savoir. Haute qualité environnementale.
Ouais.
Alors, vous dites du durable que c'est à pratiquer avec intelligence et dans le respect de, on va dire, de la cosmologie de chacun, c'est-à-dire de son empreinte sur la Terre, et loin de toute normalisation.
Je dis que la normalisation, ma foi, peut être nécessaire. Mais ce n'est pas, en tout cas, l'objectif. Prenez, je sais pas moi, de filles ou de garçons, ou de jeunes gens, ils ont tous un cœur qui bat à 70. Ce n'est pas pour autant que vous saurez si elles sont belles ou pas belles, ou si elles sont acariates ou au contraire sociales. Donc, il faut un thermomètre. Mais ce n'est pas pour autant que ce thermomètre va nous servir à faire de l'architecture. Certainement pas. Je pense que ce qui est important au départ, dans le cadre de l'architecture durable, c'est l'usage plus que l'utile.
Mmh.
On est plus dans une architecture d'usage que dans l'utilitaire. Pendant le 19e et le 20e siècle, effectivement, on a travaillé l'utile, mais on a complètement oublié l'usage. Si on revient à la ville, par exemple, il serait intéressant de faire une matrice du vide de la ville et de la retourner pour voir exactement où les gens vivent. Ben, on s'aperçoit que c'est dans le vide et non pas dans le plein. Et que ça, c'est quand même très important que de travailler sur le vide.
Alors, Philippe Pascal, vous êtes l'architecte d'une maison d'un fada, on va dire, hein, qui risque, hein, on était tombé d'accord sur,
sur
le mot
fait.
L'autre jour, qui va voir le jour à Paris, dans le 14e arrondissement, et qui est intitulé la maison 14. Alors, on peut la voir sur Internet, mais cette maison va répondre donc aux cibles, ou en tout cas aux critères de l'HQE. Mais c'est quand même la maison de quelqu'un qui est un sacré aventurier. Hein.
C'est un aventurier, c'est un artiste et c'est un aventurier. Il s'agit donc de Laurent Natkin, qui était un ami que je connaissais depuis longtemps. Et quand il m'a demandé de faire sa maison, ben j'ai découvert un autre homme, puisqu'il a mis quand même une partie de son argent. C'est pas quelqu'un de très fortuné, mais il a décidé de faire
mettre
cette maison.
Toutes ses économies pour
de
cette
mettre ses économies dans cette maison. Hein, et qui est une maison effectivement assez surprenante.
Alors, où est-ce qu'elle sera, cette maison ?
Elle est place d'Enfer Rochereau.
Dans le 14e arrondissement.
Elle sera. Mais la maquette est au pavillon de l'Arsenal.
Elle est exposée.
Oui, la maquette est exposée dans le cadre de l'exposition permanente.
Et il a une démarche assez étonnante, c'est qu'il veut que cette maison soit une maison témoin, et que ça soit surtout une maison qui permette que ce soit à des industriels ou à des particuliers, d'expérimenter de nouveaux systèmes de construction ou des nouveaux matériaux.
Donc une maison à visiter, c'est ça ?
Alors,
une maison à vivre, pas tout à fait.
C'est une maison à vivre, il va y vivre et il est prêt à recevoir toute personne qui s'intéresse finalement à sa maison et à la haute qualité environnementale. Alors, c'est ça qui est intéressant.
Alors une maison expérimentale, une maison à copier ?
Non, les maisons ne sont pas copiées.
Pas une maison imitée ?
Non, je ne pense pas qu'il faille imiter les maisons.
Dominique Alba, vous la voyez ? Vous avez la maquette dans les yeux,
tout à l'heure ? Oui, tout à fait.
Vous nous la décrivez ?
C'est un bâtiment vertical qui vient prendre la place d'un bâtiment qui aujourd'hui est un simple rez-de-chaussée, à côté d'un bâtiment déjà vertical qui lui-même pourrait donner un peu une image d'une architecture 21e siècle, on va dire, qui a été réalisée il y a une dizaine d'années, où il y a des grands oriels en verre, et donc elle va se mettre dans le creux entre ce bâtiment vertical qui existe et puis un bâtiment haussmannien. Donc ce sera un bâtiment vertical extrêmement vitré, pas très large, donc c'est une petite parcelle avec... un certain nombre d'éléments qui vont permettre de voir effectivement qu'il y aura des doubles pots de façade, il y aura sur le toit tout un système, je pense, pour... Bon, il y a du panneau solaire, il y a de la ventilation. Donc, moi, je dirais que c'est une maison démonstration. Mm-hmm. Donc, on vient la voir, on la regarde, on peut peut-être regarder des choses. Et là, pour le coup, on peut peut-être prendre des notes et puis dire « Ah, ben moi, je voudrais, j'ai vu, je sais, ça marche. » Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin d'expérimenter. Donc, toutes les occasions qui permettent d'expérimenter sont fantastiques, quoi. Donc merci aux gens de faire ça, mais on en a vraiment besoin.
Donc c'est une maison aussi qu'on pourrait, c'est un manifeste du vivant, à savoir qu'effectivement on a une serre sur rue qui fait 18 mètres de haut, avec une végétation arborescente, des murs végétalisés sur je crois 15-16 mètres, et puis surtout au sol un vivarium. Ça, c'est la vision qu'on a de la rue quand on rentre sur cette maison, hein, avec des poissons. Et puis, elle a aussi quelque chose de particulier, c'est que c'est une maison sur 5 niveaux qui est en bois. Ça, je pense que ça, c'est jamais vu. Elle est aussi en énergie. Elle sera en énergie positive si on arrive à récupérer une quinzaine de mètres carrés de photovoltaïque, mais elle sera en énergie positive, c'est-à-dire qu'elle produira plus d'énergie qu'elle ne consomme. Je crois que c'est à Paris, je ne pense pas qu'il y en ait des maisons à énergie positive.
Alors, il y a peut-être dans les bâtiments existants. Hein.
Ah, peut-être, oui, tout à fait.
Parfois, on fait du durable sans le savoir. Ouais, hein.
Ouais. Alors, bon, l'énergie, elle sera du domaine du vivant, parce qu'on va aller chercher l'énergie dans le soleil, et puis on va aller chercher dans la terre, avec des sondes géothermiques.
Vous creusez, profond. Hein.
On fait des sondes, ce qu'on appelle des sondes géothermiques.
Et les voisins ne sont pas inquiets ?
Oh ben non, la sonde géothermique, c'est pas quelque chose.
Non. Non.
Ça fait 12 cm de large, mais ça va.
Ça ne fait pas bouger l'immeuble d'à côté.
Non, absolument pas, puisqu'on est en solution en filière sèche. On appelle ça filière sèche, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a sorti l'infrastructure du bâtiment, ben on n'a plus une goutte d'eau. On fonctionne uniquement avec du panneau, avec mais pas un pet de ciment. Non pas qu'on soit contre, hein, mais là, en l'occurrence, je pense que c'est intéressant aussi dans Paris, dans des dents creuses, de pouvoir intervenir sans faire de bruit. Ça aussi, ça fait partie du respect de l'environnement, c'est le respect de son voisin, c'est effectivement...
Ça commence avec le chantier. Oui.
Ça commence avec le chantier, tout à fait. Un petit peu la maison de M. Natkin.
D'accord. Donc, qui sera inaugurée dans un an.
Il faut le souhaiter, oui, a priori, oui.
En septembre de l'année prochaine.
Tout à fait.
Dominique Alba, c'est une chance, cette nécessité
cette prise de conscience,
oui,
accélérée,
oui,
oui. Je pense que c'est une chance formidable. Parce que je pense que...
Et dans quel sens ça doit aller, quoi, comment on maîtrise,
je crois que c'est
comment
pas...
on encadre,
c'est pas si
on
facile
informe.
Que ça, d'inventer, de créer, de bouger, et que c'est nécessaire à quiquonque, je dirais. Donc, on a toujours le slogan « métro, boulot, dodo ». Donc, bon, là, voilà, il se trouve que, je pense, beaucoup de citoyens avaient envie de choses qui bougent et que le durable est arrivé à point. Donc, l'architecture en est un des révélateurs, parce que le bâtiment, c'est visible, et que la ville est constituée de bâtiments et qu'on vit dans des villes. Donc, on est tout d'un coup dans quelque chose, on se dit « on va pouvoir rêver de nouveau, on va pouvoir jouer de nouveau, etc. etc. » Alors là, les architectes ont une responsabilité, c'est qu'il ne s'agit pas de faire des choses rouges, verts, bleus, mous, poilus, pointus, qui est une dérive possible. C'est l'exhibition du durable est une dérive. Donc là, il y a un travail à faire, qui est un travail qui concerne les gens qui délivrent les autorisations de construire, qui concerne les organisations d'architectes, qui concerne la formation, qui consiste à regarder un petit peu tout ça pour que ce soit effectivement durable au sens de tout l'appétit que ça peut nous apporter, autant au sens de l'avenir de la planète, comme tu disais. Et en même temps, dans cette mesure où on n'est pas là pour faire de l'exhibition architecturale, quoi. Qui est une dérive possible. Donc c'est quelque chose, aujourd'hui, on fait très attention.
Et Dominique Alba, dernière question, comment est-ce que l'on sensibilise les foyers modestes, toute cette frange du public qui manque d'éducation en matière justement d'architecture et d'habitat, comment est-ce qu'on sensibilise les villages français
Je n'aurais pas la prétention de répondre aux villages français, mais on peut déjà considérer que la maîtrise d'ouvrage public, par ne serait-ce que les écoles, oui, les bâtiments dans lesquels vont les gens,
fait faire des progrès, absolument.
Peut faire faire des progrès, et le logement social a toujours été celui qui a tiré le logement.
De pointe.
Non, mais le logement social a toujours eu de l'avance. Donc aujourd'hui, les organismes de logements sociaux se sont vraiment organisés pour apporter des réponses. Et maintenant, ils vont avoir des partenariats, je pense, avec les filières industrielles. Donc, Il y a l'exemple, quoi. Puis faire visiter les choses aux gens. Aujourd'hui, l'architecture est à la mode. Vous avez partout dans Paris des gens qui vous font visiter des choses, qui vous montrent des choses, qui vous les expliquent. Moi, j'ai pas la prétention d'avoir l'exclusivité de ça. Je pense qu'on peut même dire expliquer mal. C'est pas grave. Du moment qu'on en parle, quoi. Voilà. Il y a des émissions comme la vôtre. J'espère qu'il y en aura d'autres et qu'il y en aura beaucoup. C'est tout ça qui fait qu'on va y arriver, quoi. Qu'on va se sentir à l'aise avec ça et que, du coup, il y aura une relation plus simple à l'architecture qu'on va retrouver aussi. Parce que je pense que dans cet enjeu-là, il y a aussi le fait de retrouver une relation à la ville, tout simplement, dans laquelle on vit. Aujourd'hui, vous voyez fréquemment des gens s'installer sur un banc et pique-niquer. Il y a 10 ans à Paris, c'était impensable. Personne ne le fait. On était ridicules. Aujourd'hui, c'est normal. Ils parlaient du vide dans la ville. Les gens, ça y est, la ville, elle est à eux. Ils se réinstallent dedans. On fait du Paris-Plage. Je ne sais pas si vous êtes allé sur le bassin de la Villette cet été. C'était extraordinaire de voir tous ces enfants qui ne partent pas en vacances à la plage. Et ben, continuons. Et ça, c'est durable. Vraiment.
Et depuis peu de temps, on déjeune d'un sandwich sur les pelouses qui sont devant la maison de la radio.
Fantastique.
Ce qui était impensable il y a quelques années.
Voilà. Mais vous savez que je suis une optimiste. Vous me connaissez.
Merci à tous de votre participation.